Vous écoutez, on lit pour vous.
Montérégie, une tablette pour remédier aux enjeux d'audition. Un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 15 mai 2025 dans le journal de Chambly. Le réseau Surdité Montérégie, RSM, dont le Chamblyen Serge Gélina est le directeur général, le DG, tente d'implanter sa tablette d'accessibilité communicationnelle, TAC, dans les villes afin de faciliter l'accès aux services pour les citoyens vivant avec des enjeux d'audition. Depuis 3 ans, le RSM met notamment l'accent sur la TAC. L'outil portatif permet aux personnes sourdes et malentendantes 2 façons d'entrer en communication avec une personne entendante. D'une part, il y a le programme de transcription de la parole à l'écrit, comparable aux sous-titres dans un film. Il y a également l'interprétation vidéo à distance, IVD. Ce volet permet l'accès à un interprète qui n'a pas besoin d'être présent sur le lieu où le besoin est requis. C'est beaucoup plus rapide que si l'interprète se déplace, soutient Yoda Lefebvre, chargé de projets relativement aux stratégies d'accessibilité communicationnelle. Dans l'attente, l'interprète reçoit une demande de sollicitation et se rend disponible pour intervenir peu importe où il se situe. Tasser l'aidant naturel. L'outil permet notamment de tasser l'aidant naturel. La pleine participation sociale, c'est le fait de pouvoir fonctionner sans avoir à demander de l'aide quand tu veux sortir et gérer ta vie, définit M. Lefebvre. Il chiffre que de 5 à 10% de la population est malentendante. Pour des moments cruciaux où tu signes une hypothèque ou que tu vas chez les notaires, lire sur les lèvres, ça peut devenir handicapant, contextualise-t-il. Ça urgeait à l'urgence. Une première mouture de TAC s'est implantée à l'urgence. Pendant la pandémie, c'était identifié comme un lieu vraiment anxiogène, explique Yoda Lefebvre quant à cette cible initiale. 5 hôpitaux de la Montérégie ont leur tablette. C'est notamment le cas des hôpitaux du Haut-Richelieu, de Pierre Boucher et de Charles Moine. Le RSM, organisme à but non lucratif, souhaite désormais l'intégrer dans les services publics. Il fait entre autres des représentations auprès des villes pour qu'elles se munissent de TAC servant exclusivement à cette fonction. On veut qu'elles soient accessibles, chargées et prêtes pour la population sourde et malentendante, envisage Yoda Lefebvre. Demande de permis, questions sur les taxes ou toute autre raison menant le citoyen à avoir recours à un service public sont visées. Le chargé de projet ajoute que les organismes pourraient aussi bénéficier de ce type de technologie. Accessible dans les villes. Saint-Bruno de Montarville a été la ville cobaye, adoptant le matériel. Pour l'instant, la ville de Chambly n'a pas la TAC. L'année dernière, elle a déposé son plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024. La ville de Longueuil a entamé en 2023 une démarche visant à se doter d'une politique en accessibilité universelle et a confié sa coordination au Bureau du développement social. Cette démarche s'échelonne sur près de 2 ans pour se conclure à l'hiver 2025 avec l'adoption et l'implantation de cette politique. Longueuil va encore plus loin et commence à lancer un signal aux autres villes, laisse entendre Serge Gélina. Il soutient que le RSM a fait partie du comité travaillant sur cette politique longueuilloise. On s'est assuré que ce qui est handicap invisible sera pris en considération, assure le DG du RSM. La sollicitation quant à l'implantation de la TAC se poursuit dans les municipalités en Montérégie ainsi que hors de la région. Question de coût. La TAC permet de réduire les coûts et les inconvénients liés au transport des interprètes. En toute transparence, Yoda Lefebvre nuance toutefois que lorsqu'un service public se munit d'une TAC, il devient responsable financièrement de l'embauche de l'interprète. C'est là qu'il y a une éducation sociale à faire. On dit aux gens, « T'es sourd, appelle-le ton interprète. » Pourquoi la personne sourde devrait investir 85 à 100 $ de l'heure pour entrer sur l'espace public alors qu'elle fait déjà partie de la tranche la plus basse des revenus moyens? Remet-il en question. L'accessibilité, c'est le donneur de service vers l'utilisateur et la clientèle qui en a la responsabilité. Cette population à part entière en est une qui paie des taxes. Elle n'a pas à assumer par surcroît le coût d'accessibilité, renchérit Serge Gélina. Si une ville possède déjà une tablette, il en coûte initialement 300 $ pour la formation, la programmation et l'inscription sur la plateforme. Ensuite, il y a des frais annuels de 50 $ séparés entre tous les membres. On s'attend toujours à ce qu'un système permettant l'accessibilité coûte une fortune. Les gens se demandent où est la pogne. Il y a un certain cynisme qui entoure les solutions informatiques parce que l'on s'est tous fait avoir par un abonnement quelconque. Termine Yoda Lefebvre. C'était Montérégie, une tablette pour remédier aux enjeux d'audition, un texte de Jean-Christophe Noël paru le 15 mai 2025 dans le Journal de Chambly.
Le cosplay, un refuge créatif pour les personnes autistes. Un texte d'Alexandre Lamic, paru le 16 mai 2025 sur radiocanada.ca. L'autisme change la façon dont une personne interagit avec le monde, communique et perçoit les informations. Établir des contacts avec les autres peut être tout un défi pour les personnes autistes. Malgré les obstacles, les Vancouverois Avi, Davona et Scott ont trouvé une activité qui leur permet de s'épanouir et de tisser des liens avec une communauté. La costumade. Aussi connue sous le nom anglais de cosplay, la costumade est une activité qui consiste à créer et à porter le costume d'un personnage de fiction. L'activité peut s'inspirer de sources diverses comme les mangas, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les films, les séries télévisées, les livres et même certaines personnalités publiques. Au-delà du simple fait de se déguiser, la costumade constitue une véritable forme d'art et d'expression personnelle. Un monde de costumes où l'on peut être soi-même. Comme le rappelle Vanessa Sophie, coordonnatrice des communications à l'Alliance canadienne de l'autisme, être en communauté, trouver un endroit où l'on se sent bien, c'est important pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes autistes. Ces dernières subissent parfois de la discrimination en grandissant, parce qu'elles sont perçues comme différentes et essaient en quelque sorte de se camoufler et de s'adapter, ce qui est une source de stress et de fatigue importante. De manière paradoxale, la costumade leur donne l'occasion d'être eux-mêmes en incarnant un autre personnage. Pour Evie Moll, le fait de ne pas être capable d'échanger avec les autres, de ne pas savoir quoi dire ou comment agir en société, est une grande source de stress. Evie rentre parfois dans la bulle des gens, pose beaucoup de questions sur les sujets qui l'intéressent et aime toucher les textures des matériaux. Une façon d'être qui n'est pas toujours bien accueillie par les autres. Les adeptes de costumade passent beaucoup de temps à créer méticuleusement leurs costumes et accessoires et accueillent généralement très bien l'intérêt qu'on porte à leur création. En cosplay, dit Evie, il est plus acceptable socialement de demander « Est-ce que je peux regarder de plus près les matériaux que tu as utilisés? Est-ce que je peux examiner de plus près les techniques que tu as utilisées pour ce costume ?» J'ai une anxiété sociale qui est exacerbée par mon incapacité à communiquer avec les gens ou par le fait de ne pas savoir quoi dire, quelle est la bonne chose à dire. Une citation de Evie Moll. Une communauté accueillante, peu importe les différences. Evie sent qu'elle peut poser les questions qu'elle veut, et peut-être elle-même au sein de la communauté de la costumade. Quand on est autiste, je dirais que le plus grand défi est l'anxiété, parce qu'on essaie constamment de s'intégrer. Une citation de Devona Struthers. Pour Devona Struthers, il est difficile de trouver des points communs avec les gens. Je ne dirais pas qu'il faut forcément être autiste pour avoir quelque chose en commun. Ce n'est généralement pas le cas. Ce sont généralement vos loisirs. Mais parfois, vous êtes très précis sur ce que vous aimez. Alors, pour d'autres choses, votre cerveau vous dit simplement « Je m'en fiche », dit-elle. Et ce point commun, c'est la costumade que Devona pratique depuis plus de 25 ans. Pour elle, coudre et travailler les tissus lui permettent d'être dans son univers, comme s'il n'y avait plus rien autour d'elle, un sentiment qu'elle apprécie beaucoup. Selon Devona, la communauté de la costumade compte beaucoup de personnes neurodivergentes et est très accueillante, quel que soit le genre de la personne, ses origines ethniques ou ses spécificités neurologiques. Quand j'incarne mon personnage, j'essaie aussi d'arborer un sourire éclatant. Je peux dire que ça m'aide à me remonter le moral comme un petit coup de dopamine. Une citation de Scott Betson. Scott aime beaucoup que les gens le questionnent sur ses costumes. Cela l'aide à briser la glace et cela lui fait du bien d'avoir des interactions avec des gens qui ont reconnu son personnage. Il a un sentiment de reconnaissance, celui d'être allé au bout de sa création. Comme il le rappelle, la communauté de la costumade est très accueillante. J'ai peut-être des hauts et des bas, mais j'essaie toujours de m'assurer de ne pas être seul sur mon chemin, car il y a beaucoup de gens qui sont capables de me soutenir de manière positive et de me faire avancer, dit-il. Parfois, des parents ou même de la famille, des amis, peuvent se dire « Si cette personne, si mon enfant, si mon ami est trop dans sa passion, peut-être qu'elle va s'éloigner des autres. » Au contraire, c'est là où elle va pouvoir être elle-même, rencontrer des gens qui sont comme elle, s'épanouir, affirme Vanessa Sophie. La costumade a donné à Evie, à Devona et à Scott l'occasion d'exprimer pleinement qui ils sont. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental complexe qui se manifeste par un large éventail de caractéristiques et de niveaux de fonctionnement. Les personnes autistes peuvent présenter des forces et des défis uniques, ainsi que des comportements et des intérêts spécifiques. La nature même de l'autisme implique que chaque personne autiste est différente et possède son propre profil de compétences et de besoins. La compréhension de cette complexité et de cette diversité est essentielle pour favoriser l'inclusion, l'acceptation et le soutien adapté aux personnes autistes. C'était le Cosplay, un refuge créatif pour les personnes autistes, un texte d'Alexandre Lamic paru le 16 mai 2025 sur radiocanada.ca.
La classe politique unanimement choquée. Un texte de Caroline Touzin paru le 15 mai 2025 dans La Presse. L'histoire de Florence, cette jeune femme vivant avec une déficience intellectuelle qui s'est retrouvée au trou de l'établissement Leclerc durant 8 jours, a profondément choqué les ministres du gouvernement du Québec, Lionel Carman et François Bonnardel. Citation. Comme tout le monde, à la lecture de l'article de ce jeudi matin, nous avons été profondément choqués. Celui-ci soulève en effet des questions et des vérifications seront effectuées. Fin de citation, ont-ils assuré dans une déclaration commune transmise aux médias après une enquête de La Presse. La jeune femme a été victime d'un bras de fer entre la ressource intermédiaire où elle logeait et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, CRDI, du CIUS du Centre-Sud de l'Est de Montréal, selon nos révélations. Florence est atteinte du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique qui fait, entre autres, qu'elle ne se sent jamais rassasiée. En d'autres mots, elle a toujours faim. Depuis son placement dans une ressource intermédiaire de Montréal, il y a un an et demi, elle sortait fréquemment à l'extérieur à la recherche de nourriture. Or, la jeune femme est à ce point vulnérable que sa sécurité était en péril à chacune de ses sorties. Elle traverse la rue sans regarder et ne sait pas lire ni se vêtir adéquatement sans aide. Celle qui a l'âge mental d'une fillette abordait fréquemment des inconnus en quête d'argent et de nourriture. La ressource de type ouverte n'étant pas adaptée à ses besoins, les intervenants devaient appeler le 911 à chacun de ces départs inopinés. La propriétaire de la ressource et même les policiers du secteur avaient demandé au CRDI de la relocaliser, sans succès. Le 27 mars dernier, Florence a été arrêtée après être entrée, la porte étant déverrouillée, chez un voisin. Elle mangeait des bonbons près du frigo, le corps et les vêtements souillés de fluide corporel. La jeune femme a été accusée d'introduction par effraction. Or, personne de l'ARI ni du CRDI n'était présent au tribunal. Un juge a ordonné sa détention en raison du risque de récidive. Une recommandation a été faite pour qu'elle soit détenue à l'Institut Philippe Pinel, mais l'hôpital psychiatrique n'avait pas de place. Cet enfant, dans un corps d'adulte, a alors atterri à la prison pour femmes de Laval. Florence a été, citation, « abandonnée à son sort par ceux-là même qui sont censés assurer sa protection », fin de citation, déplorait d'ailleurs son avocat, Maître Kevin Morras, qui est parvenu à la faire libérer de l'établissement Leclerc après qu'elle ait passé 8 jours en isolement cellulaire, 23 heures sur 24. Aux yeux du ministre responsable des services sociaux, M. Carman, et de son confrère à la sécurité publique, M. Bonnardel, citation, « il est très clair que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ont des droits qu'on se doit de respecter en tout temps et qu'ils nécessitent des soins adaptés à leurs conditions. » Fin de citation. Le ministre Bonnardel a tenu à rappeler que, citation, « la décision dans ce dossier en était une des tribunaux et que les services correctionnels n'ont pas le choix d'accepter toute personne qui lui est confiée après la décision d'un juge. » Fin de citation. Les deux ministres du gouvernement Legault ont refusé de nous accorder une entrevue, citation, « en raison de la judiciarisation du dossier. » Fin de citation. L'opposition fustige le gouvernement Legault. Abasourdi et choqué, la porte-parole de l'opposition en matière de santé mentale, Elisabeth Prasse, se demande comment une telle situation est, citation, « possible dans notre société. » Fin de citation. Citation, « à cause d'un important manque de ressources humaines et financières, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et autres milieux de vie destinés aux personnes avec une déficience intellectuelle se voient contraints d'envoyer des patients en prison. Quelle abomination !» Fin de citation, Elisabeth Prasse, porte-parole libérale en matière de santé mentale. La députée libérale se questionne sur la gestion des priorités de la Coalition Avenir Québec, CAQ. Citation, « est-ce que la CAQ, qui ne cesse de répéter que le gouvernement n'a plus d'argent à cause de sa désastreuse gestion des finances publiques, acceptera d'en faire une priorité et de finalement offrir un financement adéquat au CRDI et pour la construction de milieux de vie substituts ?» s'interroge-t-elle. « On peut en douter. » Fin de citation. Du côté du Parti québécois, PQ, on estime que Florence a été, citation, « abandonnée par le système de santé et des services sociaux ». Fin de citation. Citation, « le traitement qui lui a été réservé est indigne et totalement inacceptable ». Fin de citation, lance le porte-parole du PQ en matière de santé et de services sociaux, Joël Arsenault. Citation, « dans sa condition, elle n'aurait jamais dû être incarcérée et mise en isolement, ou trou. Ça dépasse l'entendement », poursuit le député péquiste. Il faut maintenant comprendre comment la situation a pu dégénérer ainsi, identifier les responsables et mettre en œuvre des mesures pour que cette situation ne se reproduise plus jamais. Fin de citation. Chez Québec solidaire, on qualifie l'affaire d'absolument inhumaine. Citation. C'est une honte qu'au Québec, on puisse traiter une jeune femme vulnérable de manière aussi abominable, lance son porte-parole Guillaume Clich-Rivard. On ne peut pas tolérer ça. Je veux voir le plan de la CAQ pour détecter ces situations et que ça ne se reproduise plus jamais. Fin de citation. Des solutions existent pourtant pour ne pas avoir à emprisonner de la sorte les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, poursuit le député solidaire. C'était « La classe politique unanimement choquée », un texte de Caroline Touzin, paru le 15 mai 2025 dans La Presse.
Des mesures plus contraignantes réclamées, un texte de Caroline Touzon, paru le 20 mai 2025 dans La Presse. Vu l'insuffisance de résultats en matière d'intégration en emploi des personnes en situation de handicap ces 50 dernières années, le gouvernement du Québec doit adopter des mesures plus contraignantes pour les employeurs. C'est ce que conclut la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse après avoir réalisé une étude d'envergure dévoilée ce mardi à Montréal sur le sujet. Malgré des compétences et des qualifications recherchées sur le marché du travail, plus d'un million de personnes en situation de handicap font face à des obstacles persistants à l'embauche, à l'intégration et au maintien en emploi, indique cette étude. La grande majorité, 93% des personnes en situation de handicap interrogées dans le cadre de l'étude ont connu des trajectoires professionnelles très difficiles, caractérisées par l'instabilité et la précarité. La plupart d'entre elles, 83%, ont déclaré avoir subi au moins une expérience de travail qui impliquait une forme de harcèlement liée à leur situation de handicap, dont des remarques humiliantes et des blagues dégradantes. À compétences égales à celles de leurs collègues sans limitation fonctionnelle, elles ont le sentiment d'être le choix de dernier recours des employeurs. Plusieurs dont les limitations fonctionnelles ne sont pas visibles choisissent d'ailleurs de ne pas divulguer leur handicap pour maximiser leurs chances d'obtenir un emploi. D'autres préfèrent minimiser les mesures d'accommodement requises. Autant de stratégies qui viennent éroder le lien de confiance avec l'employeur, observe la Commission. L'approche volontariste privilégiée par le gouvernement du Québec n'a pas livré les fruits escomptés, résume le président de la Commission, Philippe-André Tessier, chiffre à l'appui. La Commission fait cette sortie publique à l'aube du renouvellement de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Que les milieux de travail québécois puissent prétendre à une juste représentation des personnes en situation de handicap au sein de leurs effectifs, il faudrait qu'au moins 10,5% des personnes à leur emploi soient en situation de handicap. Dans les 40 dernières années, cette cible n'a jamais été atteinte, déplore M. Tessier, et ce, dans tous les secteurs d'emploi. L'appareil gouvernemental n'est jamais parvenu à atteindre l'objectif de 2%, fixé en 1984. Dans le secteur privé, seulement 10% des entreprises embauchent des personnes en situation de handicap. On parle d'un maigre 7% dans le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire. M. Tessier fait un parallèle avec la politique de harcèlement sexuel au travail. On ne tolérerait pas, comme société, que seuls 10% des entreprises soient assujetties à une telle politique, souligne-t-il. Le gouvernement du Québec devrait adopter une approche plus contraignante pour les employeurs, en s'inspirant de l'Ontario et de la France, où des sanctions financières sont prévues à l'égard d'entreprises et d'organismes qui n'atteignent pas une représentation suffisante. Le gouvernement doit agir avec plus de fermeté, ajoute la vice-présidente de la Commission, Myrlande Pierre. Pour réaliser l'étude, la commission a analysé près de 700 plaintes de discrimination fondées sur le handicap dans le secteur du travail traitées entre 2017 et 2024, en plus de réaliser 114 entretiens avec des personnes en situation de handicap. La commission critique également la situation inacceptable de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble de spectre de l'autisme sur les plateaux de travail. Les tâches effectuées dans ces structures ne sont généralement pas rémunérées. Lorsqu'une personne accède à un tel plateau, il n'existe pratiquement aucune possibilité pour elle d'intégrer le milieu régulier de l'emploi par la suite. Ça ne devrait plus exister, dit le chercheur et auteur de l'étude de la commission Daniel Ducharme. Les exemples d'Alexane et Cassandra. « Tu n'as pas l'air malade », se fait souvent dire Cassandra Poitras. La jeune femme qui est atteinte d'une maladie orpheline a besoin d'un chien d'assistance. Or, elle doit constamment justifier la présence de l'animal à ses côtés, déplore-t-elle, car elle n'a pas un handicap visible. Comme beaucoup de personnes vivant avec un handicap, Cassandra s'est heurtée à un manque de souplesse dans certains milieux de travail. Son employeur actuel, lui, est souple, précise-t-elle. Trop souvent, les employeurs ne tiennent pas compte des contraintes vécues comme la faible disponibilité du transport adapté, les suivis médicaux, la nécessité d'avoir un horaire allégé pour éviter la surcharge cognitive ou la fatigue, plaide d'ailleurs la commission. Pour l'artiste multidisciplinaire Alexandre Roy, qui témoigna également ce mardi aux côtés des gens de la commission, les obstacles ont été nombreux. À l'école, on ne m'a pas orienté vers les arts, mais plutôt vers un travail de bureau en raison de mon handicap physique, déplore l'artiste qui a étudié en administration. On lui a fait valoir la difficulté, voire l'impossibilité, de trouver un milieu de stage prêt à accueillir une personne en fauteuil roulant. L'artiste est parvenu à trouver un emploi administratif dans un organisme culturel, non sans regretter de ne voir nulle part à la télévision ou sur la scène une personne qui lui ressemble. Une personne sur cinq. Au Québec, 21% des personnes en âge de travailler présentent au moins une incapacité qui les limite dans leurs activités quotidiennes. On parle d'une déficience auditive, intellectuelle, langagière, motrice, organique, visuelle ou encore de troubles d'apprentissage, de santé mentale ou du spectre de l'autisme. C'était « Des mesures plus contraignantes réclamées », un texte de Caroline Touzon paru le 20 mai 2025 dans la presse.